Chapitre 127, Mignon. Laissons M. Jacqual et Carmagnole courir en poste sur la route d'Allemagne, mettons entre eux et nous la frontière de France et revenons à cette maison de la rue de l'Ouest, devant laquelle nous avons vu s'arrêter un matin la voiture armoriée de la princesse Regina de la Motte-Houdan. Faisons comme elle, entrons sous la voûte de la porte cochère. Mais au lieu de nous arrêter là comme elle, montons les trois étages d'une maison nouvellement bâtie et arrêtons-nous en face d'une porte garnie de clous et sculptée comme une porte arabe. Maintenant, agissons en amis, tournons le bouton sans frapper et nous nous trouverons sur le seuil de l'atelier de notre ancienne connaissance, Petrus Herbel. C'était un honorable atelier que celui de Petrus, atelier de peintre d'abord, mais aussi de musicien, de poète et de prince, car le vulgaire se trompe en pensant que les peintres ont le privilège exclusif des ateliers. Dès cette époque, tout ce qui pense, tout ce qui compose, tous les manœuvres de l'esprit en un mot, se sentaient à l'étroit dans ces espèces de ratières qu'on appelle des cabinets de travail. Il semble que pour s'élever à sa véritable hauteur, la pensée, cette esclave reine, a besoin, comme les grands aigles, d'espace et d'air. Or, un temps sera, nous l'espérons, où les propriétaires, devenus eux-mêmes des gens d'esprit, comprendront le bienfait des ateliers et forceront les locataires, qui ne le comprendraient pas encore, à les habiter par don, sinon par préférence ou par besoin. À cette époque où l'atelier pittoresque succédait à peine à l'atelier classique, celui de Petrus pouvait être pris pour type du logement d'un Raphaël de la nouvelle école. Nous avons dit d'ailleurs que c'était un atelier qui pouvait également convenir à un peintre, à un musicien, à un poète et à un prince. Le lecteur nous est témoin que nous avons nommé le prince en dernier, la noblesse du génie étant à notre avis plus vieille, même que celle de M. le comte de Mérode, qui prétend descendre de Mérové, même par celle de M. le duc de Lévis, qui prétend être un parent de la Vierge. Nous ne contestons pas ces deux descendances, mais la noblesse de Shakespeare et de Dante est bien autrement antique et respectable à notre avis, l'un descend d'Homère, l'autre de Moïse. En entrant chez Petrus, on était étonné, surpris, charmé. Tous les sens tressaillaient, car tous les sens étaient éprouvés à la fois. L'ouïe par les gémissements de l'orgue, l'odorat par le parfum du bain-joint et de l'aloès brûlant dans des cassolettes turques, la vue par l'aspect des mille objets divers qui tiraient l'œil de tous côtés. C'étaient des prie-dieu du XIVe siècle avec des sculptures à clochetons, des peintures roides et à couleurs vives, chefs-d'œuvre du règne de Charles IV, de Louis XI et de Louis XII, dont on ne connaît pas plus les auteurs qu'on ne connaît les architectes et les statuaires de nos plus belles cathédrales. C'étaient des bahuts de la Renaissance, de Henri III et de Louis XIII, avec des incrustations d'écailles de nacré d'ivoire. C'étaient des statuettes détachées des tombeaux des ducs de Bourgogne ou de Berry, moines priants, saintes mélancoliques, saint Georges et saint Michel domptant des dragons, les uns peints comme les apôtres de la Sainte-Chapelle, les autres dorés comme les évangélistes de Montréal. C'étaient suspendus au plafond des cages hollandaises, comme on en voit aux fenêtres des femmes de Miéris, des lampes de cuivre au bec contourné, comme on en trouve dans les intérieurs de Gérard Dow. C'étaient des armes de toutes les espèces, de toutes les époques, de tous les pays, depuis la framée des droits chevelus jusqu'à ces belles et bonnes carabines qui, à cette époque, commençaient à sortir des ateliers de Devime, depuis le casse-tête primitif, l'arc et les flèches empoisonnées des sauvages de la Nouvelle-Zélande, jusqu'aux sabres recourbés des pachas turcs et les pistolets à crosse d'argent ciselés des soldats arnautes. C'était au milieu de tout cela, soutenu par des fils invisibles qui leur donnaient l'air de voler de leurs propres ailes, des oiseaux de mer et de terre, d'Europe et d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, de toute taille et de toute couleur, depuis le gigantesque albatros qui se laisse tomber des nues sur sa proie comme un aérolithe, jusqu'à l'oiseau-mouche qui semble une escarbouche ou un saphir emporté par le vent. Puis des plâtres, reproduction des chefs-d'œuvre de Phidias et de Michel-Ange, de Praxitèle et de Jean Goujon, des torses moulés sur nature, des bustes d'Homère et de Chateaubriand, de Sophocle et de Victor Hugo, de Virgile et de Lamartine. Enfin, sur les murs, des études d'après Le Poussin, Rubens, Velasquez, Rembrandt, Watteau, Greuze, les esquisses de Schaeffer, de Delacroix, de Boulanger et d'Horace Vernet. Quand l'œil étonné, inquiet même à l'aspect de tant d'objets divers, se laissait guider par l'oreille et cherchait l'instrument et le musicien dont les sons mélodieux et les doigts savants emplissaient l'appartement de flots d'harmonie, le regard pénétrait dans l'enfoncement d'une fenêtre aux vitraux de couleur dont l'embrasure servait de cadre à un orgue, et il s'arrêtait sur un jeune homme de 28 à 30 ans, au visage pâle, aux traits mélancoliques, qui laissait errer ses doigts sur le clavier en improvisant des accords d'un sentiment exquis mais d'une tristesse profonde. Ce musicien, cette espèce de maître Wolfgang, c'est notre ami Justin. Depuis plus d'un mois, il a demandé à tout le monde des nouvelles de Mina, et malgré les promesses de Salvatore, il n'a rien appris. Il semble attendre, pour en faire la musique, des vers qu'un autre jeune homme compose, ou plutôt traduit. Cet autre jeune homme, au teint basané, aux cheveux crépus, à l'œil intelligent, aux lèvres charnues et sensuelles, c'est notre poète, Jean Robert. Il pose et traduit tout à la fois. Il pose pour un tableau de Pétrus et traduit des vers de Goethe. En face de lui est une adorable enfant de 14 ans à peine, avec un de ses costumes de fantaisie qu'elle aime tant à porter, des sequins d'or au cou et sur le front, une écharpe rouge autour de la taille, une robe à fleurs d'or et de charmants petits pieds nus, des yeux de velours, des dents de perles et des cheveux d'ébène tombant jusqu'à terre. C'est Rose de Noël dans le costume de mignon. Elle danse pour son ami Wilhelm Meister la danse des œufs qu'elle a refusé de danser dans la rue pour son premier maître. Wilhelm Meister compose pendant qu'elle danse, la regarde, sourit et revient à ses vers. Nous avons dit que Wilhelm Meister c'était notre poète. À côté de Rose de Noël, couchée à terre et expliquant le sourire mélancolique de l'enfant, et cet autre petit Mohican du bon Dieu que nous avons vu chez le maître d'école et chez la brocante, Babolin, vêtu d'un costume de baladin espagnol. Il complète le merveilleux tableau de genre que Pétrus est en train de fixer sur la toile et qui tient, comme art, le milieu entre un Isabey et un de Caen. Pétrus est toujours ce jeune homme, moitié artiste, moitié aristocrate, à la belle et noble figure que nous connaissons. Seulement cette figure est couverte d'un voile de tristesse profonde, qu'attriste encore, au lieu de l'égayer, le sourire amer qui passe de temps en temps sur ses lèvres. Ce sourire amer, c'est la pensée intérieure et inconnue qui éclate. Elle n'a rien de commun avec ce qu'il fait ni avec ce qu'il dit. Ce qu'il fait, nous le répétons, c'est un tableau représentant Mignon dansant devant Wilhelm Meister la danse des œufs. Ce qu'il dit, c'est « Eh bien, Jean Robert, cette chanson de Mignon est-elle achevée? Tu vois bien que Justin attend. » Ce à quoi il pense, ce qui fait qu'un sourire amer se dessine sur ses lèvres, c'est qu'à cette heure même où il achève son tableau, auquel il travaille depuis 3 semaines, où il demande à Jean Robert « As-tu fini ?» où il essuie avec un mouchoir de batiste son front où perle la sueur, c'est qu'à cette heure même, disons-nous, la belle Regina de la Motte-Houdan épouse le contrapte à l'église Saint-Germain-des-Prés. Maintenant, vous le voyez, il y a cependant une certaine analogie entre ce qui se passe et le tableau que fait Pétrus. Rose de Noël, qui pose pour Mignon, c'est un souvenir de cette belle Regina qu'il aime d'un amour si profond et qui lui échappe en ce moment même pour jamais. Un instant, la vie sombre de la pauvre petite bohémienne s'est éclairée au reflet éclatant de la vie de Regina. Pour avoir un prétexte de s'occuper, ne fût-ce qu'indirectement, de la fille du maréchal, de la femme du contrapte, car Regina va être la femme de son rival, Pétrus a cherché cette rose de Noël dont il avait déjà esquissé le portrait sans la connaître. Il l'a trouvée et, avec l'aide de Salvatore, l'a enfin décidé à venir poser chez lui. Et vous le voyez, Rose de Noël le pose, enchantée du beau costume que lui a fait faire Pétrus, et regardant avec ses grands yeux étonnés et ravis cette magique reproduction de sa personne sur la toile. Il faut le dire aussi, aucun peintre, aucun poète, ni Pétrus qui voulait reproduire son image, ni Goethe qui l'avait rêvé, personne n'eût pu imaginer et encore moins formuler une Mignon semblable à celle que Pétrus avait là sous les yeux. Imaginez la misère enfant, ou plutôt l'enfance misérable, avec sa beauté naïve, son insouciance d'or, et cependant, à travers cette beauté et cette insouciance, je ne sais quoi de mélancolique et de songeur. Vous rappelez-vous cette fiévreuse beauté, cette grelottante jeune fille assise dans la barque de ce beau tableau d'Hébert qu'on appelle la Malaria ? Non, n'imaginez rien, ne supposez rien. Voyez avec les yeux de votre imagination et vous verrez mieux qu'il ne nous est donné de vous faire voir. Maintenant, à quoi ressemblait cette Mignon de Pétrus ? C'est difficile à dire. Si Rose de Noël eût été consultée, elle l'eût dit certainement, en voyant la petite bohémienne du tableau, que la Mignon de Pétrus ressemblait à la fée Carita, ou plutôt à Mademoiselle de la Motte-Houdan. Tandis que, expliquez la chose comme vous voudrez, lecteur, si Regina eût été interrogée, elle eût trouvé incontestablement que cette Mignon ressemblait à Rose de Noël. D'où vient cela ? C'est que Pétrus regardait Rose de Noël et pensait à Regina. Or, c'était en regardant Rose de Noël et en pensant à Regina qu'il venait de dire à Jean Robert « Eh bien, Jean Robert, cette chanson de Mignon est-elle achevée ? Tu vois bien que Justin attend. » « La voici, » dit Jean Robert. Justin se tourna à moitié sur son tabouret. Pétrus abaissa son appui-main et la palette sur son genou. Rose de Noël alla regarder par-dessus l'épaule de Jean Robert les pattes de mouche raturées qui représentaient les trois couplets de la chanson de Mignon, si populaire en Allemagne, et Babolin se souleva sur ses coudes. « Lis, nous écoutons, » dit Pétrus. Jean Robert lut. « Connais-tu le pays où les citrons fleurissent, où l'orange jaunit sous son feuillage vert, où les jours sont des flammes, où les nuits s'attisent, où règne le printemps en exilant l'hiver, ce doux pays où croît le myrte solitaire, où le laurier grandit dans un air embaumé? Dis-moi, le connais-tu ? Non, eh bien, c'est la terre où je veux retourner avec toi, bien-aimé. » Connais-tu la maison où s'ouvrit ma paupière, où ces dieux de granit qui faisaient mon effroi en me voyant rentrer de leurs lèvres de pierre murmureront « Enfant, qu'avait-on fait de toi ?» Chaque nuit, comme un phare, en mon rêve étincelle, sa vitre qui s'allume au couchant enflammée, cette maison, dis-moi, la connais-tu ? C'est celle où j'aurais voulu vivre avec toi, bien-aimé. Connais-tu la montagne où l'avalanche brille, où la mule chemine ? En un sentier brumeux, où l'antique dragon rampe avec sa famille, où bondit sur les rocs le torrent écumeux. Cette montagne, il faut la franchir dans la nuit, car c'est de son sommet que le regard charmé découvre à l'horizon la terre bien connue, où je voudrais mourir avec toi, bien-aimé. » À ce dernier vers, Justin poussa un soupir. Rose de Noël essuya une larme et Pétrus tendit la main à Jean Robert. « Ah, donnez-moi ces vers bien vite, » dit Justin, « je crois que je ferai là-dessus de la bonne musique. »« Et vous m'apprendrez à les chanter, n'est-ce pas ?» dit Rose Noël. « Sans doute. » Pétrus allait aussi dire quelque chose lorsqu'on frappa à la porte trois petits coups espacés d'une certaine façon. « Ah, » dit Pétrus en pâlissant, « c'est Salvator. » Et puis, d'une voix à laquelle il essayait de rendre sa fermeté, « Entrez, » dit-il. On entendit alors la voix de Salvator qui disait « Couche-la, Roland !» Puis la porte s'ouvrit et Salvator parut avec son costume de commissionnaire. Roland resta couché sur le palier en dehors de la porte.